magazine que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, grand reportage, Clémentine Pavlotsky.
L'environnement se porte mal, les différents rapports sur l'état de la biodiversité et du climat le montrent, il faut donc le défendre et l'un des moyens est la justice. Ces derniers temps, des retentissants procès climat se multiplient en Europe et dans le monde. Ce sont les ONG, les citoyens qui initient ces actions. Mais certains états renforcent également les moyens de la justice en faveur de la nature. L'Espagne s'est dotée dès 2006 d'un parquet de l'environnement avec la Suède, c'est le seul pays de l'Union européenne à l'avoir fait. Grâce à ses procureurs spécialisés et la police espagnole de environnement, les criminels sont mieux poursuivis. Les pollueurs sur le banc des accusés, un reportage de Christine Siebert.
Alors tous ces dossiers, j'imagine c'est des dossiers qui sont en cours, mais je ne sais pas si vous pouvez nous montrer quelque chose qui est déjà classé.
J'ai demandé à ma secrétaire de porter tout ça pour vous impressionner.
Je suis très impressionnée.
Le procureur Antonio Vercher Noguera est à la tête de quelques 200 procureurs et spécialistes dédiés à l'environnement dans toute l'Espagne. Sur son bureau, les dossiers s'empilent, certains tas de papiers atteignent une hauteur vertigineuse, on dirait la ligne d'horizon de New York. Ces documents concernent surtout l'environnement. Antonio Vercher s'y est intéressé dès les années 80. Depuis, les lois pour protéger la nature se sont multipliées en Espagne au fur et à mesure que l'urgence écologique s'est accentuée.
S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas besoin de loi. L'objectif principal de la loi, c'est la solution des problèmes et l'élimination des conflits. C'est évident que les ressources naturelles sont plus limités et en général, tout devient pire. Ça veut dire que les conflits vont apparaître. Alors, nous avons commencé dans le contexte légal espagnol pour la protection de l'environnement avec un article dans le code pénal. Nous avons prévu comme crime le versement des déchets et la pollution de l'air. En 1995, nous sommes passés d'un article à presque 40 articles.
Mais malgré tous ces textes législatifs, la protection de l'environnement reste compliquée.
Le problème avec les affaires de l'environnement, c'est que tout le monde est conscient des crimes classiques, voilà, de l'homicide. Mais avec l'environnement, c'est plus compliqué. Alors, très souvent, il y a des personnes qui appellent, écoutez, j'ai vu ça, est-ce que c'est un crime, ça, ou quoi, non? Le problème avec l'environnement, c'est l'exemple que je pousse toujours, c'est que si on utilise un couteau ou un pistolet, l'effet, c'est immédiat. Avec l'environnement, la contamination aérienne, ça veut dire que la personne va mourir de cancer, de leucémie ou quelque chose comme ça, 5 années après.
Il n'empêche, le nombre de condamnations pour des délits et crimes environnementaux a triplé en 10 ans pour atteindre environ 1200 par an. Et il n'est pas rare que les peines lourdes prévues dans le code pénal soient réellement appliquées. Un auteur d'un incendie forestier est actuellement en train de purger une peine de prison de 15 ans. Bien sûr, ce succès de la justice environnementale espagnole est dû aussi à une police formée et sensibilisée. En Espagne, ça fait déjà 30 ans que la Guardia Civil, la police espagnole, s'est dotée d'une branche spécialisée dans l'environnement, le CEPRONA, qui compte près de 2000 agents. À une cinquantaine de kilomètres de Madrid, c'est déjà la campagne. La petite ville de Guadalajara s'élève sur une colline verdoyante. Plusieurs agents du CEPRONA veillent ici au respect des lois environnementales. Dans les bureaux de la Guardia Civil, nous rencontrons le lieutenant Luis Solanas. Ça fait 5 ans qu'il a intégré le CEPRONA, la police dédiée à l'environnement.
Ici, dans la province de Guadalajara, nous avons surtout affaire à l'abandon et à la maltraitance d'animaux domestiques, aux incendies forestiers et aux problèmes des déchets, comme les décharges illégales et les déchets dangereux des usines. Nous avons aussi des problèmes liés à la chasse illégale. Mais nous luttons contre tout cela et les gens nous tiennent en estime pour ce combat. Mais on a aussi des ennemis, bien sûr, ceux qui sont en infraction avec la législation environnementale.
Ces ennemis de la police environnementale, nous les trouvons sur la petite place à côté du Palacio del Infantado, un imposant palais du 15e siècle. Plusieurs octogénaires sont assis sur un banc, leur canne entre les genoux. Malgré la douceur du temps, ils ont gardé leur veste en tricot et leur béret. Toutes ces lois sur l'environnement les agacent.
Ici, toute ma vie.
J'ai été berger toute ma vie, j'avais des chèvres, mais ils te poursuivent quand tu cueilles un peu de thym sauvage.
Le CEPRONA devrait plutôt surveiller les entreprises et arrêter la pollution causée par l'industrie.
La contamination de las industrias.
Et puis moi, avec mes chèvres, avant je n'avais jamais de problème par rapport aux cerfs et aux loups.
Oui, la faune sauvage cause beaucoup de problèmes aux bergers, parce que de nos jours, on la protège de façon exagérée. Il faut qu'ils posent des limites aux loups, mais pas aux bergers. La pollution, c'est dans les villes, ce n'est pas les bergers qui détruisent l'environnement.
Je n'aime pas vraiment les policiers de l'environnement parce qu'ils s'attaquent toujours aux pauvres, aux gens de la campagne. Si je cueille 4 fleurs de camomille, ils risquent de me jeter en prison.
Retour à Madrid. Au siège madrilène de la police environnementale, nous sommes reçus par le capitaine Miguel Méndez. Alors, la prison pour 4 fleurs de camomille et un brin de thym ou de romarin? Non, tout de même pas.
Si quelqu'un cueille un peu de romarin, il n'y a pas de problème. Mais concernant les espèces protégées, on n'a pas le droit de les arracher. Si je vais dans les montagnes, je dois respecter les zones protégées. Si je quittais les sentiers balisés, que je commençais à piétiner les plantes et que tout le monde faisait la même chose, on détruirait la nature. Alors, par rapport aux loups, si un troupeau est attaqué, l'administration prévoit une indemnisation.
Et concernant les gros pollueurs mentionnés par les bergers de Guadalajara, le CEPRONA se donne les moyens de les poursuivre, assure le capitaine Miguel Méndez.
On utilise les mêmes techniques d'investigation policière que pour un homicide ou un crime lié à la drogue. Par exemple, les écoutes téléphoniques, les filatures, la surveillance des messageries sur les téléphones mobiles ou encore des comptes bancaires, que ce soit ceux d'une personne physique ou d'une entreprise. Nous sommes aussi puissants qu'un char de combat.
Il assure, à la différence des seniors de Guadalajara, la plupart des Espagnols soutient la police environnementale. Et le CEPRONA travaille beaucoup avec les associations écologistes, par exemple l'ONG CEO BirdLife. Ils mènent même des projets ensemble afin de préserver la biodiversité.
Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
Cap sur les locaux de CEO BirdLife, où nous sommes reçus par Anna Carecondo, l'une des responsables de cette ONG.
L'avantage de travailler avec les agents du CEPRONA, c'est que ces policiers ont reçu une formation spécifique. Ils savent quel manquement constitue un délit et à quel moment il faut intervenir.
Et pour revenir une dernière fois sur la cueillette de camomille, Anna Carecondo estime qu'il y a une part de vérité dans ce que ressentent les vieux bergers de Guadalajara. Parfois, la justice s'attaque plus facilement aux pauvres qu'aux criminels en col blanc.
Ils n'ont pas complètement tort. Certaines sanctions sont beaucoup plus faciles à appliquer. Quand tout est évident, quand vous voyez quelqu'un cueillir une plante qu'il n'a pas le droit de cueillir, vous tenez alors le délinquant et la preuve de son délit. Vous pouvez le punir immédiatement. Mais il s'agit du crime organisé, par exemple, de construction illégale qui implique des promoteurs immobiliers, des autorités publiques, des hommes politiques. Cela demande beaucoup plus d'investigation, d'efforts et aussi des moyens qui ne sont pas forcément mis à disposition. Et à la fin, paradoxalement, les petits délits sont plus souvent punis alors qu'ils ne constituent pas vraiment un problème. Puisqu'en effet, si un monsieur cueille un brin de camomille ou de romarin, ce n'est pas un problème.
Le fait qu'Anna Carecondo mentionne les constructions illégales n'est pas un hasard. Retournons un instant dans le bureau du procureur Antonio Vercher. Il explique, en effet, le parquet de l'environnement a été créé suite à une série de grands scandales de blanchiment d'argent dans le secteur du bâtiment.
Ce qui a passé en 2003 et 2004, c'est qu'il y a eu certaines opérations policières par rapport à corruption et blanchissement de l'argent à travers des constructions illégales. Ça a été véritablement quelque chose de très sérieux. Et les autorités espagnoles ont décidé que ça a été le temps d'agir. Et le ministère public spécialisé dans les affaires de l'environnement et l'aménagement des territoires et l'urbanisme a été créé à ce moment-là.
Dans un quartier tranquille de Madrid, nous avons rendez-vous avec maître Clémentine Baldon. Cette avocate, qui est spécialisée entre autres dans des affaires liées à l'environnement et au climat, vit entre Madrid et Paris. Son activité professionnelle est centrée en France. Ici à Madrid, elle est plutôt observatrice de la justice environnementale espagnole.
Déjà, le système espagnol a quelque chose aussi d'assez caractéristique, c'est que ça a été marqué quand même par une grosse corruption. Et c'est aussi ces scandales, notamment urbanistiques, qui ont amené à cette création de ce parquet environnemental, puisqu'on a eu un système économique qui s'est complètement développé autour des développements urbanistiques non contrôlés, marqués sous fond de corruption assez forte, des élus notamment. Ça a amené le gouvernement de Zapatero à créer cette structure. Mais c'est un sujet qui reste aujourd'hui encore. C'est-à-dire aller contre l'administration, que ce soit de la part d'un parquet local et après d'un juge, ça reste encore assez rare d'un point de vue pénal.
Autrement dit, le système espagnol vient de loin et manque encore aujourd'hui parfois d'efficacité. Ainsi, les ONG espagnoles avec lesquelles Maître Clémentine Baldon est en contact se demandent parfois s'il vaut mieux agir seul en justice pour avancer plus vite ou s'il faut saisir la fiscalia, le parquet de l'environnement.
En fait, une ONG de défense de l'environnement, quand elle est informée d'un délit environnemental, elle a plusieurs options qui s'ouvrent à elle. Elle peut soit aller directement saisir le juge, ce qui présente le désavantage déjà d'être potentiellement la cible de procédures abusives. Et puis ça n'a pas la même force que si c'est le fiscal lui-même qui dépose cette plainte. Ensuite, le désavantage peut être que si le fiscal n'a pas les moyens d'aller approfondir l'enquête, d'aller comprendre exactement la nature des délits, ou n'a pas la volonté, quand on parle surtout au niveau territorial, dans ce cas-là, la procédure va être allongée jusqu'à de 6 mois à 1 an, sans avoir forcément le résultat escompté.
Plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud.
En France, Clémentine Baldon intervient entre autres comme avocat de la Fondation Nicolas Hulot dans l'affaire du siècle. Ce recours de 4 ONG contre l'État français pour inaction climatique s'appuie sur le soutien des citoyens. Il y a d'un côté cette pétition qui a atteint un record de signatures. Plus de 2 millions de Français exigent aux côtés de ces ONG que l'État fasse plus, beaucoup plus pour sauver le climat et réduire les émissions de CO2. Et il y a les marches et manifestations en faveur du climat qui se multiplient ces derniers temps.
Et 1, 2 et 3 degrés.
Les commentateurs parlent de vraies waves, vagues d'action climatique partout dans le monde, et y compris en Europe. En Europe, on a une dizaine de cas en cours aujourd'hui, en Belgique, en Irlande, en France bien sûr, en Allemagne. Donc c'est une vraie vague, enfin, c'est avec beaucoup d'espoir qui sont attachés. Au niveau européen, ce sont 3 textes européens qui ont été contestés, parce que leurs ambitions ne sont pas vues comme compatibles avec les objectifs de l'accord de Paris.
Ça, c'est les 10 familles.
C'est les 10 familles. Donc c'est une action en annulation de 3 textes du paquet énergie-climat européen, toujours sur son fondement d'incohérence avec à la fois des annonces et des engagements internationaux de faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré au maximum.
Pour ce qui est de cette plainte des familles mentionnée par Maître Baldon, le tribunal de l'Union européenne vient de la déclarer irrécevable, mais les familles font appel devant la Cour de justice de l'Union européenne. Nous avons quitté Madrid, nous sommes à présent à Grignan, dans la ferme de la famille Féchet. C'est l'une de ces familles qui accusent l'Union européenne. Maurice Féchet a 73 ans et il cultive la lavande depuis 5 générations. À l'instar du procureur de l'environnement espagnol, il a lui aussi un bureau rempli de papiers. Mais les pièces les plus volumineuses se trouvent dans son ordinateur. Pendant qu'il clique sur différents dossiers pour nous montrer les pièces juridiques, il explique sa situation.
Quand vous vivez comme ça sur un lieu agricole, par exemple, pour nos enfants, on prépare pour améliorer ce qu'on a et pour que nos enfants aient un peu plus, etc. Moi, pour ma part, hein, si mon chrysanthème il sèche sur ma tombe, c'est pas un problème. Hein. Et maintenant, ça devient très dur de laisser un peu plus à ses enfants. L'année dernière, on a eu 6 mois de sécheresse et on a à peu près 30% des plants qui sont morts.
Maurice Féchet a constitué son dossier avec l'aide d'un ami avocat qui passe régulièrement ses vacances dans la région. Sur l'écran de son ordinateur, il laisse défiler des pages et des pages.
Moi, ils m'ont demandé de faire un dossier par rapport à ma compta, par rapport aux chiffres climat de la région. Après eux, ils ont repris tout. Voilà, c'est très technique parce que là, tu lis là qu'il fait appel à l'article temps qui renvoie, tu vois, c'est tout comme ça.
Le dossier juridique peut paraître technique et théorique, mais les conséquences du changement climatique sur les champs de lavande de la famille Féchet sont bien réelles.
Oui, mais d'abord on va voir les lavandes.
Geneviève, la femme de Maurice, nous montre ses lavandes, accompagnée de ses petits-enfants.
Voilà, ce sont les lavandes. Elles devraient être en pleine santé. et puis par-ci par-là. Vous voyez, il y a déjà des mortes au milieu sur la rangée.
Je dirais qu'il y a moins. En plus, il m'a sauté une rose et c'est pas lui qui m'a sauté une rose.
Ah, la sonnette rose, c'est à toi, c'est vrai.
Oui, mais les paniers.
Et le panier rose aussi, il est à toi.
Mais pour se rendre compte de l'étendue des dégâts, il faut aller jusqu'au hangar.
Ah, ça fait mal au doigt.
Des amas de fleurs de lavande dégagent une odeur enivrante.
Regardez-le là-bas. Et là, il y a combien ? Eh bien, la récolte, il doit y avoir en gros... Il faut demander à Maurice parce que je ne sais pas bien. Il doit y avoir 20 tonnes, en gros, 20 tonnes.
Nous rentrons à la ferme.
Qui c'est qui trouve Pépé ?
Maurice nous attend, assis sur une chaise de jardin. Il confirme.
20 tonnes à peu près.
D'accord. Et avant, vous aviez parfois 50 tonnes.
Ah, on a eu fait 50 tonnes, 53 tonnes même une fois. Mais il y a déjà un moment qu'on n'y arrive plus, quoi. Ouais. Non, c'est dur, d'autant qu'on a aucun, on n'a pas grand pouvoir de faire quelque chose, quoi.
Il ajoute, si, il a tout de même le pouvoir d'agir grâce à cette action en justice. Et à travers cette action, la famille Féchet crée également des liens avec d'autres citoyens mobilisés pour le climat.
C'est les œufs de Renault, il a un élevage de Renault aussi.
Ce midi, plusieurs jeunes activistes viennent pique-niquer chez Maurice et Geneviève. Ils sont membres de l'association Alternativa et viennent recueillir le témoignage du lavandiculteur pour le mettre sur les réseaux sociaux.
Bon, mais tu vas voir. Ça va être très bien.
Il filme l'interview avec un smartphone.
Premièrement, comment est-ce que vous avez pris la décision de porter plainte contre l'Union européenne ?
L'issue de la plainte des familles contre l'Union européenne est encore incertaine. Mais dans d'autres cas, le même genre de combat juridique a été gagné. L'exemple qui a inspiré tous ces procès climat est la victoire de la Fondation Urgenda contre le gouvernement néerlandais. Nous avons rencontré Marjan Minesma, la directrice d'Urgenda, lors du récent colloque Justice for Climate à l'hôtel de ville de Paris. L'appui des citoyens néerlandais était essentiel, affirme-t-elle.
On a initié cette procédure avec presque 1000 plaignants. On a fait chaque étape avec tous ces gens, même quand on a déposé les pièces de notre dossier. Ça a pris 5 secondes, mais nous sommes arrivés avec des centaines de personnes qui ont dit « c'est notre affaire ». Et à chaque audition, la salle était pleine à craquer. Il y avait des bébés, des enfants, des étudiants, et ainsi les juges ont pu voir que ce n'était pas une affaire ordinaire. Et finalement, on a gagné.
En Espagne, le procureur de l'environnement a lui aussi remporté une grande victoire pour le climat. Antonio Vercher raconte que ses services ont démantelé aux îles Canaries un énorme trafic de gaz R22, un gaz frigorigène néfaste pour le climat que les bateaux de pêche utilisaient pour leurs congélateurs à bord. Les délinquants agissaient sans se cacher, ils avaient même écrit R22 en lettres géantes sur les réservoirs de ce gaz.
Imaginez-vous, s'il s'agit de cocaïne, voilà, c'est imaginable, un dépôt de 10 000 litres au kilo de cocaïne avec des lettres cocaïne de la taille d'un homme. Nous avons trouvé ça par rapport à ce type de gaz. Ça montre le manque de conscience de toute la société par rapport à ces problèmes.
D'où la grande importance de la prise de conscience et de l'appui citoyen pour que les lois environnementales n'existent pas que sur le papier.
Il y a une chose qui est absolument évidente. Voilà. On peut voir une liste incroyable et merveilleuse de crimes environnementaux dans les codes pénals. Mais s'il n'y a pas de personne qui porte une plainte contre quelqu'un dans le contexte de l'environnement, il n'y a rien à faire.
La mobilisation citoyenne est la clé de voûte. Ça vaut bien sûr également pour les procès climat. Et Clémentine Baldon ajoute, l'engagement citoyen arrive parfois même à pallier le manque de moyens.
Les ONG avec peu de moyens sont arrivés un peu à faire de l'innovation frugale. Vous savez, comme on dit dans les entreprises, l'innovation frugale, c'est avec très peu de choses, on arrive à faire beaucoup. Quand vous voyez sur l'affaire du siècle de mobilisation par cette pétition, ils partent de peu de choses et elles arrivent à des résultats qui sont assez spectaculaires pour justement affronter des entreprises énormes. On parle vraiment de David et Goliath complètement. Entre le côté sensibilisation plus forte, plus utilisation très très forte de tous les outils du web, je trouve que c'est assez spectaculaire les résultats qu'elles peuvent obtenir.
Et l'histoire raconte que David a finalement remporté la victoire contre le géant Goliath. Un grand merci à tous les participants, les pollueurs sur les bancs des accusés, un reportage de Christine Zibert réalisé par Pierre Chaffanjon.